D'abord, dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, et puis le verset 14, « Car l'amour du Christ nous étreint en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité, en sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. » Ensuite, dans Galates, chapitre 6, verset 14, Galates 6, verset 14, « Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Car ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. À l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. » Ensuite, Éphésiens 2, Éphésiens 2, verset 14, lisons aussi le verset 13. « Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un, et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnances, afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. » Chapitre 4, Éphésiens 4, verset 20. « Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus. » C'est-à-dire, pour ce qui est de la conversation précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Un dernier passage dans Colossiens 3, Colossiens 3, depuis le verset 8. « Mais maintenant, renoncez-vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas de grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. » Ici, la lecture de la parole. Ce sujet devant nous ce soir est un sujet très encourageant. Et c'est aussi un grand défi. Notre frère a utilisé le mot défi dans une de nos prières. Et j'aime suggérer que cette pensée de la nouvelle création est vraiment un grand défi pour nous, comme chrétiens. Lorsqu'on parle de la nouvelle création, et j'aimerais aussi référer au nouvel homme, on a lu quelquefois cette expression « nouvel homme », on pense que c'est en contraste avec l'ancienne création. Et là, on se demande aussi pourquoi Dieu a introduit une nouvelle création. Lorsqu'on parle de ce sujet, de la nouvelle création, on pense surtout à ce que Dieu travaille en nous. Dieu fait un travail en nous. Lorsqu'on parle de ce sujet, on ne pense pas seulement à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. On a vu dans ces quelques passages, c'est intimement lié. L'œuvre de la croix est la base de tout. Mais il y a maintenant un travail de Dieu en nous. Et ce travail de Dieu en nous, c'est lié à ce sujet qu'on a, la nouvelle création et aussi le nouvel homme. Donc, nouveau, en contraste avec ce qui était Dieu. Pourquoi les choses que Dieu a données au début, comme dans la première création, sont devenues vieilles? C'est à cause des manquements de l'homme. Et pas seulement cela, et je pense maintenant à une expression dans l'Épître aux Hébreux. Même les choses que Dieu a données par rapport à la loi, on lit dans Hébreux 8, en disant une nouvelle, là il parle de la nouvelle alliance, c'est encore un autre sujet. Il a rendu ancienne la première, lorsqu'il devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Donc la pensée de quelque chose de nouveau est en contraste avec quelque chose qui est vieux. Pourquoi? Parce que Dieu a dû introduire quelque chose de nouveau, parce que l'homme a manqué. Et puis là, on pourrait dire, dans la personne du Seigneur Jésus, nous voyons vraiment la pensée de Dieu. Par rapport au nouvel homme, on va revenir, on voit vraiment la pensée de Dieu parfaitement en Christ, dans la gloire. Mais ce que Dieu voit en Christ, ce qu'il a en Christ, il veut maintenant opérer en vous et moi. Donc je répète ce que Dieu a planifié par rapport à Christ, selon ses propos là. C'est cela que Dieu est en train d'opérer en vous et moi, pour nous rendre conformes à Christ. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation. Le mot n'existe pas dans notre langage, mais on pourrait utiliser le mot transcréation. Dieu a créé la première création et nous sommes part de cette première création. Mais en même temps, Dieu est en train de travailler en nous pour opérer quelque chose en nous. C'est assez compliqué à comprendre parce que d'un côté, Dieu introduit quelque chose de tout à fait nouveau. Il n'améliore pas le vieil homme. Il a crucifié le vieil homme, Romains 6. Donc, il introduit quelque chose de tout nouveau. De l'autre côté, c'est quand même nous. Comme nous étions, Dieu nous a sauvés et Dieu nous transforme. Donc, c'est la même identité. Pour expliquer cela, juste une référence à 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, nous voyons là l'enseignement par rapport à la résurrection. Et nous voyons que Paul parle d'une graine de blé et parle du fruit de ce grain de blé. Puis il met le lien entre les deux. Il dit, le grain de blé, ça c'est le corps mortel. Et puis ce fruit, ça c'est le corps de la résurrection. Donc, ce sont deux ordres différents. Quand même, il y a un lien entre les deux. C'est ça que j'aimerais suggérer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu améliore ou veut améliorer la chair, qu'il veut améliorer le vieil homme. Pas du tout, parce que le vieil homme a été crucifié dans la mort à la croix, Romains 6. Il y a une autre référence, et pensez à Jacques 1, nous sommes déjà des premiers fruits de la création de Dieu. Ça, c'est aussi une référence à la création de Dieu. Il y a d'autres passages qu'on n'a pas lus, par exemple dans Apocalypse 3, où nous voyons le Seigneur Jésus comme le chef de la nouvelle création. Il est le chef de la première création, il est aussi le chef de la nouvelle création. Il est aussi le créateur des deux créations. Voilà la grandeur du Seigneur Jésus. Et voilà aussi le privilège que nous avons une part dans cette création. Maintenant, une chose qu'on va revenir à cela, pourquoi le texte qu'on a lu utilise le singulier, le nouvel homme. Le nouvel homme, pas les nouveaux hommes. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a planifié pour nous a été exprimé dans Christ. Mais il ne faut pas me mal comprendre, je ne dis pas que Christ a été créé. Christ est le Fils de Dieu. Christ n'a jamais été créé, il est le Créateur. Mais quand même, en lui, nous voyons vraiment ce que Dieu veut voir en vous et moi. Donc on va revenir à ça par rapport au sujet du nouvel homme. Maintenant, quelques pensées sur 2 Corinthiens 5, où nous avons lu au verset 14 de l'amour du Christ. C'est, je pense, une des trois fois où nous avons l'amour du Christ dans le Nouveau Testament. Il est mort pour tous, et tous sont donc morts. Verset 15, qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort qui a été ressuscité. Là, nous voyons donc le plan de Dieu que nous puissions maintenant vivre pour celui qui, pour nous, est mort et a été ressuscité. Et cela introduit une pensée nouvelle. Dieu ne nous voit plus comme autrefois des Canadiens ou des Suisses ou des Allemands. Dieu nous voit comme une nouvelle race, une nouvelle nation, une nouvelle culture aussi. Et selon ce nouvel ordre que Dieu a introduit, nous appartenons donc à Christ lui-même. Et nous vivons maintenant pour lui. Pas pour le Canada ou pour la Suisse, mais pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de responsabilité dans ce monde. Ça, c'est clair. Ça, c'est un autre sujet. Je ne parle pas de ce sujet-là. Nous avons une responsabilité par rapport à la première création où Dieu nous a placés. Mais le secret, Dieu nous place ici dans cette vieille création comme des représentants de la nouvelle création. C'est pour ça que j'ai souligné cette pensée d'un défi. Donc je répète, Dieu nous introduit ici pleinement dans la première création, qui est aussi à plusieurs égards une vieille création, qui souffre, Romains 8, pour représenter cette nouvelle création. Donc Dieu nous a tirés de ce monde, comme Galates 1 le dit, il nous a renvoyés dans ce monde comme des témoins, et nous représentons cette nouvelle création. Nous vivons pour Christ qui est ressuscité. Quelle est la conséquence? J'ai dit déjà, on ne représente plus une race humaine ou une nation sur la terre. On représente une autre nation, une nation céleste liée à Christ. Verset 16, Paul tire la conclusion pratique en sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Enfin, ce verset-là est vraiment important à comprendre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne reconnaît plus les liens de notre existence par rapport à cette terre ou par rapport à nos parents, etc. Mais Dieu veut voir quelque chose de nouveau. Il veut voir vraiment ces liens nouveaux qui existent maintenant avec Christ dans la gloire. C'est pour cela qu'il y a maintenant d'autres standards pour mesurer. Donc je répète, ce n'est pas pour négliger maintenant notre parenté, mais Paul dit ici, nous ne connaissons personne selon la chair, ça veut dire qu'il y a maintenant de nouveaux standards qui sont plus importants que les vieux standards. Si même nous avons connu Christ selon la chair, supposons que Paul avait connu le Seigneur Jésus avant la croix. Il dit dans ce verset-là, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Pourquoi? Parce que, comme le Seigneur l'a dit à Marie de Magdala dans Jean 20, ne me touche pas. Il appartenait à un nouvel ordre de choses. Et nous le connaissons maintenant ainsi. Marie ne le comprenait pas à ce moment-là. Mais Paul l'a compris lorsqu'il a vu Christ dans la gloire. Là, il a compris que Christ représente un nouvel ordre de choses. Et nous appartenons à Christ, pas selon l'ancien ordre de choses, ici le judaïsme, mais selon ce nouvel ordre de choses, nous appartenons à Christ. La conclusion donc, verset 17, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Ici, pour donner un mot-clé, on a donc le principe de nouvelle relation que Dieu introduit. Une nouvelle relation, pas selon les vieux principes, même dans le judaïsme, Paul dit on ne reconnaît plus ces principes-là. Il y a maintenant un nouvel ordre de choses et ainsi de nouvelles relations. Ça, c'est la leçon de 2 Corinthiens 5. Et il dit, dans la conclusion, les choses vieilles sont passées. C'est pour ça que j'ai référé à Hébreux 8. Et on peut penser à 1 Jean 2 aussi, que les choses passent maintenant parce qu'on est aussi impliqué dans un processus. Ça, c'est quand même une pensée un peu différente. Ici, en principe, les choses vieilles sont passées. Selon le standard de Dieu, selon ce nouvel ordre qu'il a introduit, les choses vieilles sont passées. Mais d'un autre côté, on est encore pleinement là-dedans. Et ainsi, les choses sont en train de passer. Verset 18, toutes choses sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Dieu voulait nous avoir pour lui-même. Quelle pensée? On voit beaucoup dans 2 Corinthiens ce que Dieu est maintenant pour nous, mais nous avons ici la pensée aussi que Dieu voulait nous avoir pour lui-même. Et ainsi, il fallait qu'il y ait une nouvelle création. Autrement, Dieu ne pourrait jamais être satisfait. Donc, tournons maintenant Galates 6. Un deuxième sujet par rapport à cette nouvelle création, c'est que Dieu a introduit une nouvelle règle. Galates 6, verset 16, nous avons lu à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle. C'est une référence donc à cette pensée-là que la nouvelle création vient aussi avec une nouvelle règle. Christ a été crucifié, verset 14, qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul présente la croix devant les chrétiens là à Galates, mais aussi à nous, pour montrer que par la croix, il y a une distinction marquée, absolue, entre le monde et Christ. Ça veut dire aussi entre tout ce qui appartient au monde, comme le monde religieux, ou le monde politique, ou le monde culturel. Il y a une distinction marquée, absolue, entre tout cela et ce nouvel ordre de choses que Paul appelle ici aussi la nouvelle création, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Donc ça va très, très loin. On comprend que le monde a été crucifié. Dieu a jugé le monde dans la croix de Christ. Mais moi, je n'existe plus pour le monde non plus. C'est deux côtés de la médaille. Et dans ce contexte-là, il dit au verset 15, car ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Donc, pas un effort religieux, ou le manque d'un effort religieux, ça ne joue aucun rôle. Ce qui joue un rôle, Paul dit ici, c'est une nouvelle création. Donc, de nouveau, ce que Dieu a fait, je pense à Nombre 23, c'est quoi qui compte? C'était là Israël, ce que Dieu a opéré, ce que Dieu a fait, c'est ça qui compte. Et ici, on peut l'appliquer à la nouvelle création. C'est quoi qui compte? Moi ou mes efforts? Non. C'est l'œuvre de Dieu qui compte, cette nouvelle création. Et ça c'est le point maintenant, cette nouvelle création vient aussi avec une règle. Les Juifs religieux et aussi les Galates, qui étaient donc confus ou mal enseignés par ces faux docteurs, par rapport à ce système judaïque que Dieu a rejeté. C'était tout lié à la chair. Mais Paul dit, on n'a plus rien à faire avec la chair, ni avec la chair religieuse ou la chair politique, ou quelle forme de chair que ce soit. Pour nous, il y a une chose qui compte, c'est la nouvelle création. Pour les Juifs religieux, c'était donc la loi de Sinaï qui comptait. Mais Paul dit, nous avons une nouvelle règle. La nouvelle création ne veut pas dire tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas la pensée du tout de la nouvelle création. C'est impensable que Dieu, qui est le créateur de tout cela, permette le désordre ou que nous puissions faire ce que nous voulions faire. Dans ce cas-là, la chair aurait de nouveau une place différente, il est vrai, mais quand même une place. Mais la chair n'a aucune place dans ce système. Quand même, ce nouveau système a aussi une règle. Et on voit cela au début du chapitre, référer vite fait, Galates 6, frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. Vous voyez, cette nouvelle règle, c'est la loi du Christ. Donc, j'aimerais juste répéter. La loi de Moïse appartient à ce vieux système, à cette vieille création dans ce sens-là. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous une nouvelle loi, la loi de Christ. Et Jacques parle de cette loi dans Jacques 1 et 2, la loi de la liberté, la loi royale. C'est cette même loi sous laquelle nous sommes placés, cette nouvelle règle de la nouvelle création. Donc, en contraste, il y a beaucoup de contrastes entre ces deux systèmes, ça se comprend. Maintenant, le prochain passage qu'on a lu dans Éphésiens 2, donc le troisième point, ce que nous voyons là, c'est une nouvelle unité. Là, nous voyons que Dieu a pris des croyants d'entre les Juifs, il a pris des croyants d'entre les nations, il les a unis ensemble. Au verset 15, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnances, afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau. Donc, Dieu n'a pas introduit les croyants d'entre les païens dans le judaïsme. Dieu n'a pas introduit une forme plus excellente du judaïsme. Dieu a introduit quelque chose de tout nouveau. On le voit dans chapitre 3 surtout, par rapport au propos de Dieu, quelque chose qui était inconnu dans l'Ancien Testament. Et nous appartenons donc, selon le propos de Dieu, à ce nouveau système. Et les Juifs d'entre, et les croyants d'entre les Juifs, et les croyants d'entre les païens, appartiennent maintenant ensemble à ce nouveau système. Et ce verset nous parle de cela et montre que ça prenait une création. Dieu est intervenu comme créateur. C'est Dieu qui a fait ce travail. Une création veut dire une œuvre de Dieu où il introduit quelque chose qui n'était pas là auparavant, où il n'y avait aucune chose qui était déjà disponible. Tout vient de Dieu vraiment. Et ainsi, Dieu a introduit ce nouvel ordre de choses. Et ainsi, il a créé un seul homme nouveau. Maintenant, j'aimerais donc parler brièvement de ce seul homme nouveau. Nous sommes tous des croyants. Quand même, on appartient à ce seul homme nouveau. Il y a donc beaucoup de diversité, comme on voit dans d'autres passages aussi. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le même homme, c'est le même homme. Mais le même homme se voit dans plusieurs, dans beaucoup de croyants, qui sont tous différents. Lorsqu'on étudie, par exemple, la nature, on parle quelquefois d'une population de certaines fleurs, par exemple. On étudie une certaine fleur, et on va ramasser des caractéristiques de ces fleurs partout. Puis là, lorsqu'on met tout ensemble, on a une idée de cette plante. Et ainsi, on pourrait dire, lorsqu'on voit tous les croyants ensemble, là, on peut avoir une idée de ce nouvel homme. Mais je dois donner un mot de caution, c'est que on doit mise en garde, pourvu que nous ne manquions pas. Parce que le nouvel homme, ce n'est pas en rapport avec nos fautes ou nos manques, c'est vraiment la pensée de Dieu, comme on voit tout cela dans le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus est reflété dans tous les croyants. La pensée du nouvel homme veut dire que ce que Dieu voit en Christ est reflété maintenant en vous et moi. C'est ça la pensée de Dieu. Et Dieu a besoin de tous les croyants pour que ce nouvel homme se voie. Tous les croyants, bien entendu, depuis le jour de Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église, parce qu'on parle de l'Église ici. On ne parle pas des croyants qui appartiennent à Israël avant la croix ou après l'enlèvement de l'Église, ça c'est une autre chose. On voit donc que la nouvelle création est comme un témoignage au milieu de la première création. Et ainsi, nous sommes placés sur ce terrain de la vieille création pour fonctionner. Pour le nouvel homme, c'est à peu près la même chose. Nous sommes placés au milieu de la vieille création pour refléter Christ, pour fonctionner comme ce nouvel homme. Puis on va voir quelques détails encore pour finir dans Éphésiens 4 et dans Colossiens 3, comment ce nouvel homme fonctionne selon cette nouvelle création. Donc dans Éphésiens 4, nous voyons d'abord au verset 17 jusqu'au verset 19, 10 points de notre marche dans le péché, dans le monde. C'est en 10 points. En contraste avec ce que nous étions auparavant, il y a maintenant ce « mais » du verset 20. « Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. » Il parle maintenant des croyants. Les croyants qui ont maintenant une relation vivante avec le Christ, ils apprennent de lui qui est dans la gloire, ils sont instruits en lui selon la vérité en Jésus. C'est par rapport à sa marche ici-bas sur la terre, la vérité en Jésus. Et au verset 22, c'est-à-dire pour ce qui est de la conversation précédente d'avoir dépouillé le vieil homme. Donc on voit ici un acte définitif. On a dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses. Donc on appartenait à ce vieil homme. Le vieil homme, c'est aussi donc une pensée collective. Tous les êtres humains non sauvés, pour le dire ainsi, appartiennent à ce vieil homme. Ce vieil homme se voit donc dans tous les êtres humains qui ne sont pas sauvés. Et ainsi, le nouvel homme se voit dans tous les croyants. Je ne dis pas en perfection, Dieu veut que ce soit en perfection, mais lorsque Dieu voit Christ, là, il voit le nouvel homme en perfection. Christ n'est pas créé, évidemment. Mais en Christ, Dieu voit ce que le nouvel homme devait être, ce que nous devrions être et refléter. Mais ça nous aide à comprendre que le vieil homme, c'est une idée, une pensée collective, et ainsi le nouvel homme, c'est aussi une pensée collective. Donc, en contraste avec ce vieil homme, qu'est-ce qu'on voit au verset 23? Dieu veut que nous soyons renouvelés. Donc, d'abord, on a dépouillé le vieil homme. On voit le vieil homme était crucifié, Romains 6. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais ici, nous avons aussi une responsabilité. Nous avons dépouillé le vieil homme, une tâche. Dépouiller le vieil homme, c'est une fois pour toutes lorsqu'on s'est converti. Mais est-ce qu'on marche consciemment dans ce sentier-là qu'on a dépouillé le vieil homme? Ou est-ce que le vieil homme revient un peu, quelquefois? Est-ce que ça n'arrive quelquefois? Ça nous arrive. Et pour que ça n'arrive pas, nous avons besoin d'être renouvelés. Donc il y a trois pensées, verset 24, revêtu le nouvel homme. Comme j'ai dit, ça arrive le moment de notre conversion. Là, on s'est revêtu du nouvel homme. Quand même, et c'est une œuvre de Dieu, quand même, nous avons aussi une responsabilité. Nous devons nous revêtir constamment du nouvel homme. Et il y a beaucoup de versets qui nous parlent que nous sommes revêtus de Christ, même par le baptême, Galates 3, Romains 13, on a ce vêtement de la lumière, les armes de la lumière, Éphésiens 6, l'armure de Dieu. C'est des formes différentes comment nous pouvons être revêtus. Ici, le nouvel homme, donc, est revêtu. C'est une fois pour toutes, mais ça implique aussi un effort constant que nous devons consciemment nous revêtir. Chaque matin, lorsqu'on se réveille, on doit consciemment se revêtir de ce nouvel homme. Donc, entrer dans les pensées de Dieu que Dieu a pour nous. Donc, les deux contrastes. Dépouiller, ça implique donc un défi pour nous. Revêtu implique un défi pour nous. Et la troisième pensée, renouveler au milieu, implique aussi un défi pour nous. Parce que ça prend un travail continuel pour renouveler ce nouvel homme. Au lieu d'être influencé par le vieil homme, par les convoitises trompeuses, on doit suivre ce cheminement du nouvel homme et être renouvelé. Romains 12 nous parle de cela, que nous devons être renouvelés dans notre entendement. Soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc c'est un renouvellement constant. Comme on a besoin de la nourriture pour nos corps, pour que nos corps puissent fonctionner, ainsi nous avons donc besoin d'être renouvelés selon l'enseignement de Romains 12, selon 2 Corinthiens 3. Nous voyons tous, nous contemplons Christ dans la gloire. C'est un aspect de ce processus d'être renouvelé. Et d'autres versets pourraient être amenés aussi dans ce contexte-là. C'est un processus continuel. Le mot qui est utilisé ici pour renouveler a la pensée aussi de rafraîchir. Donc, ça souligne la pensée que Dieu ne donne pas juste quelque chose de formel, quelque chose de nouveau, et puis ça finit avec ça. Non, Dieu veut que ça se rafraîchisse tout le temps. Un rafraîchissement spirituel continuel. C'est pour ça que là, on peut utiliser aussi la pensée d'un défi. C'est un défi de nous renouveler le matin lorsqu'on se réveille dans la communion avec Dieu, par la lecture de la parole, par la prière, par nos conversations, de nous renouveler dans l'esprit de votre entendement.
Le mot entendement, on a vu déjà dans Romains 12, c'est la pensée, c'est notre pensée, la façon de penser. C'est une mentalité, notre façon de penser doit être renouvelée. Et verset 24, créé selon Dieu. Le nouvel homme a été créé selon Dieu. Donc, pourquoi? C'est en justice et sainteté de la vérité. Dieu est le Dieu de lumière. Donc, ce nouvel homme est selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Chaque mot, on pourrait étudier en détail, mais ça, on ne peut pas le faire maintenant. Vous pouvez réfléchir sur chaque mot. La justice pratique, la sainteté. Dieu est un Dieu saint. Est-ce que nous marchons dans la sainteté? Est-ce que nous marchons dans la vérité? Voilà ce défi. Ce nouvel ordre se voit dans la justice, se voit dans la sainteté, se voit dans la vérité. Il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui aussi sur le terrain de la profession chrétienne. Dieu veut la vérité, il veut la sincérité. Dans Colossiens, donc ici, pour donner un mot-clé, on a vu donc une nouvelle relation, on a vu une nouvelle règle, on a vu une nouvelle unité. Ici, nous voyons donc une nouvelle moralité. En contraste avec ces 10 points de la moralité des gens dans le monde, nous avons ici, par rapport au nouvel homme, une nouvelle moralité, une nouvelle morale qui se montre ici. Et finissons maintenant en lisant quelques versets encore dans Colossiens 3. Et puis peut-être je pourrais ajouter encore, si vous étudiez Éphésiens 4, les versets qui suivent donnent l'application de cette vérité. Au moins dans 7 points, nous voyons l'application pratique. Comment le nouvel homme se montre? On ne ment plus. On ne vole plus. On ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Et on fait d'autres choses. Ça, c'est l'application pratique où le nouvel homme se montre pratiquement dans la vie. La même chose, on voit dans Colossiens 3. Et dans Colossiens 3, nous avons donc le lien avec Christ dans la gloire. Et peut-être je peux juste brièvement référer à Paul. Lorsque le Seigneur a appelé Paul, Saul, dans Actes 26, il dit, « Je te prends du peuple et des nations et je t'envoie vers eux. » Donc, il a enlevé du judaïsme, il a enlevé des nations pour l'envoyer vers eux de nouveau. C'est la même pensée. Mais c'est par rapport à Christ dans la gloire. Il a rencontré Christ dans la gloire, c'est lui qui l'a envoyé. Et ainsi, nous, vous et moi, aujourd'hui, nous sommes envoyés de la même façon dans ce monde où nous sommes placés. C'est très pratique. Dans Colossiens 3, d'abord, donc, cette relation avec Christ dans la gloire. Ensuite, verset 5, « Mortifiez donc vos membres. Si quelque chose se montre de nouveau, qui appartient à la chair, on doit couper cela tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on doit se tuer, mais on doit couper immédiatement. S'il y a une mauvaise pensée, on doit la confesser tout de suite. On doit être très, très radical. On ne peut pas chérir ces choses qu'il mentionne ici. Ensuite, verset 8, « Renoncez-vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre. » Voilà. « Ayant dépouillé le vieil homme. » De nouveau, cette pensée collective, on appartenait au vieil homme, qui se voit donc dans tous les êtres humains, mais on l'a dépouillé. Mais est-ce qu'on vit continuellement dans cette vérité-là? C'est ça le défi. Avec ces actions ayant... Donc ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire avec ce vieil homme. Et rien du vieil homme doit se voir en nous. Verset 10, « Ayant revêtu le nouvel homme. » Le nouvel homme est ici, dans le grec, un peu différent. C'est un homme frais. Dans Éphésiens 4, le nouvel homme veut dire, le mot utilisé là veut dire d'un nouvel ordre. Ici, c'est un homme qui est frais. Qu'est-ce qu'on dit, frais? Qui est donc, c'est très agréable. Et ensuite, qui est renouvelé, là le mot réfère à ce processus de renouvellement. Et là, le mot est utilisé par rapport à ce nouvel ordre. Donc ici, le processus de renouvellement, c'est par rapport à ce nouvel ordre. Il n'y a rien de la chair, rien de la pensée de l'homme qui entre ici. C'est selon ce nouvel ordre que ce nouvel homme se renouvelle constamment. Ici, en connaissance, ça donne aussi la cinquième clé. On a cinq points ce soir. La cinquième clé, c'est une nouvelle connaissance. Une nouvelle connaissance. Dans l'Épître aux Colossiens, on voit beaucoup d'emphase sur la connaissance. Et en Christ, il y a tous les trésors. Chapitre 2, verset 2, « Pour la connaissance du mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse de la connaissance. » C'est Christ. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse de la connaissance. Voilà. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et maintenant, nous appartenons à ce nouvel homme qui est renouvelé en connaissance. Est-ce que ça ne nous lie pas à Christ? Évidemment, en Christ sont tous les trésors de la connaissance. Et nous pouvons être renouvelés dans le contexte de notre relation avec Christ, en appréciant la relation avec Christ, où il n'y a pas de grec. On a vu cela déjà dans 2 Corinthiens 5. Pas de différence de nationalité joue un rôle. Ici, on représente plusieurs nationalités. À Montréal, dans le rassemblement, il y a encore d'autres nationalités. C'est plus une question de nationalité. C'est plus une question de différence religieuse, circoncision, incirconcision. C'est plus une question de différence de culture, barbare ou scythe. C'est plus une question de position sociale, esclave ou homme libre, mais où Christ est tout et en tout. C'est tellement beau de voir ça. Christ, dans la nouvelle création, Christ est l'objet suprême, unique, absolu. Mais il est aussi en nous, en tous. Il travaille en vous et moi. Il opère en vous et moi. Donc, le nouvel homme fonctionne par ce lien avec Christ dans la gloire. Il est l'objet, il est tout pour nous. Ce nouvel homme fonctionne parce qu'il travaille. On voit ici, dans ce passage, que le Seigneur Jésus est le créateur du nouvel homme. Donc, ce verset montre déjà que lui, il-même, ne peut pas être le nouvel homme. Le nouvel homme représente Christ, mais il est le créateur. On le voit clairement dans ce verset qu'on a lu, créé selon l'image de celui qu'il a créé. Donc ce nouvel homme est selon l'image de celui qu'il a créé. Qui l'a créé? Christ. Christ, dans la gloire, a créé ce nouvel homme. Éphésiens 4, selon Dieu, dans la justice de la vérité. Mais ici, c'est Christ lui-même qui est le créateur. Lui a introduit ce nouveau système. Donc, ici, une nouvelle connaissance. Vous voyez, avec ces quelques pensées, il y aurait sans doute d'autres détails à élaborer, mais c'est vraiment un défi pour nous. Où nous sommes placés dans ce monde, Dieu veut que quelque chose de Christ soit vu en vous et moi. Oui, il est vrai, en même temps, c'est Dieu qui travaille. Si quelque chose se montre en vous et moi de Christ, c'est la preuve d'un travail de Dieu. Dieu travaille, mais nous avons notre responsabilité pour vraiment réaliser qu'il y a de nouvelles relations maintenant, une nouvelle règle, une nouvelle unité. Et dans ce nouvel homme, nous voyons donc l'œuvre de Dieu, Éphésiens 4, nous voyons une nouvelle morale. Au lieu de l'immoralité qu'on voit autour de nous, quel défi de représenter cette nouvelle moralité. Et ainsi, dans un monde plein de connaissances, on représente une nouvelle connaissance. C'est pour ça que le mot défi décrit vraiment le message qu'on a dans ces quelques passages pour nous. Que le Seigneur nous aide à être de fidèles représentants de la nouvelle création jusqu'à ce qu'il vienne. S'il y a encore des questions pour quelque chose qui n'était pas clair, là, juste donne l'occasion parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faut que ce soit clarifié tout de suite. Oui, là, oui. C'est un peu un contexte différent, mais comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de passages qui réfèrent à ce renouvellement, comme Romains 12, Tite, là, et 2 Corinthiens 3 et 4, beaucoup d'autres versets. C'est beau de voir comment ça va ensemble. Même Jacques 1, comme j'ai référé à Jacques 1, on voit un élément de cela.